Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
7h46, Olivier Mazerolle, vous recevez ce matin l'ancien Premier ministre, François Fillon.
Bonjour François Fillon. Diriez-vous, après avoir entendu François Hollande, qu'il a tout faux ?
Je dirais que le président que nous avons entendu hier sur RTL était impuissant et enfumeur.
À ce point-là ?
Il nous a expliqué qu'il avait sauvé les régimes de retraite alors qu'il a combattu toutes les réformes qui le permettent aujourd'hui. Il a essayé de nous faire croire que l'accord sur la retraite à 63 ans, c'était presque la mise en œuvre de sa promesse de retour à la retraite à 60 ans.
Il n'a jamais promis
il
ça.
Il nous a...
Comment ? Pardon.
Il n'a jamais promis quoi ? Le retour à la retraite à 60 ans ?
Jamais.
Pardon, mais...
J'ai regardé, j'ai vérifié.
Il y a une phrase avec un adverbe, comme on fait quand on n'a pas envie de... Quand on fait une promesse qu'on n'a pas envie de tenir. Mais enfin, le slogan du retour à la retraite à 60 ans a été au cœur de la campagne des élections présidentielles. Et je le sais, parce que moi, je me suis affronté à M. Hollande en 2003. Il a combattu de toutes ses forces la retraite, la réforme.
2003, c'est autre chose.
Voilà. Et en 2010, de la même façon. Et la seule réforme des retraites qu'il a fait jusqu'à maintenant, c'est une réforme qui aggrave plutôt la situation avec le compte pénibilité. Plutôt que de l'améliorer.
Mais vous trouvez que c'est pas une bonne réforme, cet accord?
Bien sûr
qui
que
est
si, c'est une bonne réforme, mais enfin, il faut pas prendre les Français pour des imbéciles. Et c'est même derrière cette réforme, je pense qu'il y a une question très très intéressante. On a des partenaires sociaux qui, quand ils sont en situation de responsabilité, c'est-à-dire quand il n'y a pas l'État derrière pour assurer la garantie, comme c'est le cas par exemple pour l'UNEDIC, c'est-à-dire quand ils sont forcés de prendre une décision. Prennent une décision assez courageuse. Il faut quand même pas oublier qu'il y a une augmentation de cotisation dans cet accord qui n'est pas bonne pour l'économie française. Mais enfin, ils franchissent un pas en allant jusqu'à 63 ans et tout le monde voit bien que c'est inéluctable. Et on a un président de la République qui, au lieu de se saisir du courage des partenaires sociaux, au contraire, continue de ne rien faire, de ne pas vouloir bouger, ni là-dessus, ni sur le temps de travail. Et moi, ça me conforte dans une idée, c'est que je pense que les Français sont beaucoup plus lucides et prêts au changement que les responsables politiques ne le pensent.
Mais est-ce que vous ne devriez pas être satisfait tout de même de voir que, malgré ce que lui demandent sans arrêt les frondeurs et la gauche de la gauche, il apporte toujours son soutien à la relance des entreprises?
Oui, c'est la relance des entreprises dont il a expliqué sur votre antenne que c'était pas des lieux où on pouvait faire des référendums parce qu'il y avait aucune démocratie et qu'il y avait des pressions sur les salariés. Il nous a aussi expliqué que tout allait bien hier. La France va mieux. Il y a juste un problème avec le bâtiment. Comme si les 6 millions de chômeurs étaient des couvreurs, des maçons et
eh bien, il annonce une amélioration de l'attribution du prêt à taux zéro.
Oui, enfin, on voit bien que tout ça n'est pas à la hauteur de la situation, qu'on a un président qui croit que il va sortir le pays avec sa petite social-démocratie, alors qu'en réalité, le pays a besoin de changements beaucoup plus profonds. Mais toute cette interview d'hier, c'était une succession de commentaires qui concrétisent cette impuissance et cet enfumage. Quand il dit... il parle de la conférence sociale comme si c'était un grand moment, alors que tout le monde voit que la conférence sociale, c'est un endroit où on va parler de tout, sauf des sujets qui préoccupent vraiment les Français.
Est-ce qu'il a vraiment tort quand il dit qu'il veut préserver le dialogue social plutôt que de contourner les syndicats par voie de référendum ? Je vous propose d'écouter juste une petite phrase qu'il a prononcée.
Dans quelle société voulons-nous vivre ? Nous avons besoin de représentants qualifiés, ce qu'on appelle les corps intermédiaires. Et s'il n'y a plus cet échelon-là, alors nous sommes dans une forme de désordre, de confrontation et de violence.
D'abord, on veut vivre dans une société où il y a du travail. Et tant que le président de la République et une grande partie des responsables politiques ne l'auront pas compris, la France ne retrouvera pas confiance en elle-même et tous les autres problèmes, y compris les problèmes d'identité, ne se résoudront pas. Pour que la France retrouve du travail, il faut changer les règles du jeu. Il faut changer les règles du droit du travail, il faut changer les règles sociales.
Je ne suis pas un adversaire des syndicats.
J'ai toujours pensé que le dialogue social était nécessaire. Je voudrais même qu'on lui donne plus d'importance en ouvrant des champs nouveaux comme la discussion sur le temps de travail. Mais quand les syndicats sont en situation de blocage, quand leur représentativité est très faible, comme celle des partis politiques d'ailleurs, on peut prévoir, en plus des syndicats, pas à la place des syndicats, mais en plus des syndicats, des moyens de négocier des sorties de conflit ou des améliorations, comme c'est le cas avec Smart. Le référendum chez Smart, c'est un sujet dont le gouvernement aurait dû s'emparer. Voilà, une majorité de salariés qui décident de passer à 39
Smart,
heures. Chez les Smart, syndicats vont bloquer.
Chez Smart, vous savez que, en fait, il y a les cadres d'un côté qui ont voté majoritairement pour.
On trouve toujours des
et
bonnes
les ouvriers qui votent contre.
On trouve toujours des
donc
bonnes
y a un
raisons.
Problème.
D'abord, il y a une majorité des personnes. Alors maintenant, on fait la distinction entre les ouvriers, les cadres, puis demain, on va faire la distinction entre, je sais pas, les ouvriers spécialisés, les cadres supérieurs. Enfin, à chaque fois qu'on a envie de tuer une bonne nouvelle, on fait exactement ce que on est en train de faire sur l'accord Smart. Moi, je me déplace dans les entreprises. Je dis pas que les gens sont enthousiastes à l'idée de travailler plus, mais en même temps, ils voient bien que la situation économique du pays continue de se dégrader. Et François Hollande devrait s'appuyer. Et le premier ministre qui était pour la suppression des 35 heures avant d'être premier ministre, il devrait s'appuyer sur cet accord, au moins pour enclencher un dialogue. Moi, je suis pour des négociations sociales avec les partenaires sociaux, mais quand ces négociations sociales bloquent et qu'elles empêchent tout progrès, on peut prévoir un référendum, comme il y a dans la démocratie politique, un référendum pour passer au-dessus du Parlement quand le Parlement bloque les changements.
Mais vous décrivez une situation de blocage telle au niveau du pays que on se demande pourquoi vous ne réclamez pas finalement la dissolution de l'Assemblée nationale, voire même une élection présidentielle anticipée.
Ah ben ça, si on pouvait avoir une élection présidentielle anticipée, je pense qu'on pourrait éviter sans doute les mois les plus longs et les plus inutiles de la Ve République. Parce que à écouter le président de la République chez vous hier, on se demande ce qu'il va faire.
Mais vous diriez qu'il démissionne mois. Pour non, provoquer cette élection.
Moi, je respecte les institutions. Je ne veux pas rajouter au désordre. Enfin, qu'est-ce qu'on va faire pendant les 18 mois qui viennent? La gauche va au-devant d'une sévère défaite électorale aux élections régionales. Hein, je ne sais pas quel sera le résultat final, mais enfin, je doute que ce soit une victoire pour la gauche. Est-ce que, à la suite de ces élections régionales, le président de la République va changer de politique? C'est d'ailleurs peut-être une des raisons supplémentaires pour les Français pour voter contre les listes du Parti Socialiste. Alors, essayer d'exiger des changements.
On a bien noté hier matin qu'il a fait de Nicolas Sarkozy son adversaire privilégié. Il l'a critiqué 5 fois, notamment en disant qu'il y avait beaucoup de discours qui n'étaient pas suivis d'actes avec lui. Et moi, je vois dans votre livre, page 81... Vous écrivez, en parlant de Nicolas Sarkozy, au moment de passer à l'action, il hésitait à prendre des risques alors qu'il avait su apparaître dans ses discours comme un homme que rien ne pouvait arrêter. Quelle similitude.
Enfin, au moins, il y aura eu des réformes pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. On peut, et c'est mon avis, estimer qu'on aurait pu aller plus loin et plus fort, et qu'il faut aller plus loin et plus fort, et qu'il faut changer de dimension. Mais enfin, il y aura eu des réformes. Qu'est-ce que François Hollande laissera? Il laissera une réforme de société sur le mariage, et il laissera ensuite une France dans un état dégradé sur le plan économique et social.
Concernant...
Donc, la comparaison avec Nicolas Sarkozy n'est pas très judicieuse. J'ai entendu aussi expliquer que si les policiers manifestaient devant le ministère de la Justice,
oui, c'est parce
c'était
que
contre
aviez...
Nicolas Sarkozy. Franchement, il y a des moments
où
quand on est
policiers.
Président de la République française, on ne dit pas des choses aussi ridicules. D'abord, on avait mis des heures supplémentaires, donc la suppression des heures supplémentaires dans la police, c'est l'équivalent de 9000 emplois qui ont été supprimés. Mais surtout, ils manifestaient devant le bureau de Madame Taubira parce qu'ils ont des problèmes avec le garde des Sceaux.
Est-ce que, quand il dit qu'il y a beaucoup de fantasmes qui sont entretenus, est-ce que vous ne pouvez pas lui donner raison? Par exemple, sur les réfugiés, ils n'arrivent pas en masse, souligne-t-il, contrairement à ce que certains racontent. Est-ce que vous lui savez gré d'avoir résisté à Angela Merkel en refusant de dire comme elle, à l'adresse des réfugiés, « Venez sans limite ».
Ça, c'est sûr qu'il a été bien inspiré de ne pas prendre la même attitude. Et c'est vrai aussi qu'il n'y a pas aujourd'hui un afflux de réfugiés qui déferle sur la France, contrairement à l'idée qui est entretenu ou en tout cas qui est reçu par les Français. Puisque vous avez eu la gentillesse de citer mon livre, je raconte un épisode qui a plus d'un an où j'étais allé sur la frontière de Vintimille, de Menton, et où les policiers de la police des frontières m'avaient déjà expliqué ça, m'avaient déjà dit que la plupart des réfugiés refusaient de prendre de faire une demande d'asile.
Donc,
en France.
Ils mènent une politique convenable.
Non, mais c'est rien à voir. C'est pourquoi est-ce que les réfugiés veulent pas venir en France? Parce qu'il y a pas d'emploi, monsieur Mazerolle, c'est parce qu'il n'y a pas d'emploi et parce qu'il pense que la France n'est pas un pays accueillant.
Alors, mais parce qu'il n'a pas ouvert les bras, comme Angela Merkel, non. Il n'a pas créé l'appel d'air.
Ça, c'est incontestable qu'il n'a pas ouvert les bras, et il a eu raison de le faire. Angela Merkel, d'ailleurs, a modifié sa position. Ceci étant, elle vient de prendre une nouvelle position qui pose problème avec la Turquie, comme vous avez pu le constater, puisqu'elle a demandé à la Turquie de faire un effort sur les réfugiés, et elle a raison de le faire, mais enfin, en échange d'une promesse d'adhésion à l'Union européenne, qui est une promesse qui est intenable.
Merci François Fillon.
À propos du président Hollande sur RTL hier, impuissant et enfumeur, vient de nous dire François Fillon, qui estime que d'abord la France aujourd'hui a besoin de travail. L'entretien est à réécouter et à retrouver sur le site rtl.fr. Merci à vous.